Émilie Jeté, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous êtes timide, vous?
Si moi je suis timide, mais je vous dirais qu'aujourd'hui à la radio, probablement que je suis un peu intimidée.
Oui, voilà, parce qu'on l'est tous à un moment donné ou l'autre de notre vie, intimidée ou un petit peu timide. On rencontre quelqu'un de nouveau à une soirée, on va à une réunion de parents, c'est la première fois de l'année. Bon, c'est des situations qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais la grande question, et lorsque j'ai fait mes recherches, ça revenait souvent, quelle est la différence entre la timidité et la phobie sociale?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les deux parce que, comme vous le disiez si bien, la timidité, à peu près tout le monde va se retrouver là-dedans à un moment donné ou à un autre de leur vie. Par contre, la phobie sociale, ça va beaucoup plus loin que ça. Les gens qui ont une phobie sociale, qu'on appelle aussi le trouble d'anxiété sociale, c'est vraiment une peur très marquée et persistante dans des situations sociales, des situations de performance. Mm-hmm. Et souvent, même si les gens qui ont une phobie sociale vont être perçus comme des gens timides, ben en fait, ils éprouvent une gamme là, de symptômes physiques ou de symptômes psychologiques très sévères qui va bien au-delà de la simple gêne.
Émilie, mm-hmm. je lisais quelque chose sur la distinction entre la timidité et la phobie sociale et je trouvais ça... je trouvais qu'on imaginait, c'était bien imagé, en fait, on pouvait mieux l'imaginer, c'est-à-dire que la timidité serait une sensibilité et la phobie une peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense que c'est une belle distinction à faire. Une autre analogie qu'on pourrait faire aussi, c'est, par exemple, quand on parle de dépression ou de déprime. Hein, la déprime, tout le monde va à un moment donné ou à un autre, là, une journée, ça file moins bien, mm-hmm. tout ça. Ça fait partie de la vie. Mais la dépression, par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stable dans le temps, qui est beaucoup plus profond, qui amène vraiment un dysfonctionnement là, au niveau social, personnel, professionnel et tout. Alors, effectivement, la même chose, hein, si on veut distinguer la timidité de la phobie sociale, ça vraiment, ça entrave le fonctionnement des gens. Mm-hmm. Puis une autre façon qu'on a aussi de distinguer les deux, c'est que souvent les gens qui sont timides, ben s'ils sont avec des gens, par exemple, qui sont très accueillants, qui ont une attitude là, très amicale, ben ils vont tranquillement se sentir plus à l'aise et prendre graduellement un peu plus leur place. Alors que quelqu'un qui a une phobie sociale, même s'il est entouré de gens très accueillants, ça suffira pas à faire baisser son malaise. Le malaise va aller jusqu'à des sensations de panique, va se demander en fait si l'autre est vraiment sincère dans son accueil ou va se juger, va avoir l'impression qu'il est pas adéquat, tout ça. Donc ça va beaucoup beaucoup plus loin.
Ça devient quasi un handicap, là.
Oui, c'est vraiment, c'est très, très handicapant une phobie sociale. Il faut surtout pas minimiser l'impact là, de ça. Vraiment, c'est des gens qui, lorsque ce n'est pas traité, peuvent en venir à être très, très isolés, avoir de la difficulté à se trouver un emploi, ne pas être capable mm-hmm. d'être en relation amoureuse. Donc, ça peut avoir des impacts à différents niveaux, là.
L'une des différences aussi, c'est que j'ai l'impression que la timidité, avec le temps, ça peut apprendre à se dompter, je dirais, on peut apprendre à surpasser la timidité, soit par l'expérience de vie, ou encore, apprendre à connaître ses limites un petit peu plus, l'estime de soi, tandis que la phobie sociale, on a besoin d'aide extérieure.
Absolument. Effectivement, la timidité, c'est quelque chose que souvent les gens vont rapporter comme étant relativement là, inconfortable, mais tout de même domptable, comme vous disiez si bien. Alors que la phobie sociale, vraiment, c'est très, très difficile pour les gens de se contrôler parce qu'on parle de sensations de réelle panique là, en situation sociale. Donc, ça donne vraiment le goût de s'enfuir et de pas affronter les situations. Tandis que la timidité, les gens vont dire, ben ça me tente pas trop, là, mais c'est correct, je vais prendre sur moi, je vais y aller.
Oui. Ouais. Lorsque l'on parle de réaction physique, lorsqu'il est temps de parler de phobie sociale, à quoi on peut s'attendre?
En fait, les symptômes physiques d'anxiété les plus courants, là, les gens vont nous parler de palpitations cardiaques, de tremblements, de transpiration. Les gens vont même parfois rapporter là, des symptômes là, gastro-intestinaux, des rougissements, même des confusions au niveau de la pensée. Les gens vont nous dire « mais j'arrive plus à réfléchir, on dirait qu'il n'y a rien qui sort, je bredouille, tout ça ».
Et ça apparaît à quel moment de la vie?
Typiquement, ça va survenir entre l'âge de 10 et 20 ans. Par contre, ça existe là, avant l'âge de 10 ans. Il y en a des enfants qui souffrent de phobie sociale avant 10 ans. Et une survenue qui viendrait après 20 ans, c'est plus rare, mais ça peut arriver quand même. Dans ces cas-là, c'est souvent suite à une expérience particulière là, où les gens ont été vraiment très embarrassés, puis là, ont de la difficulté à passer par-dessus par la suite, là.
Mais Émilie, lorsque ça arrive entre 10 et 20 ans, comme on peut l'observer plus souvent, comme vous semblez le dire, ça vient de quoi? Est-ce que c'est un trait de personnalité ou c'est plutôt, ça vient des parents et ça se transpose chez les enfants?
C'est très complexe, cette question-là, puis il n'y a pas d'études qui ont été capables de démontrer là, une théorie plus que l'autre. Fait, on a plutôt tendance à s'entendre pour dire qu'il y a différents facteurs bio-psychosociaux qui rentrent en jeu. Donc, au niveau biologique, là, il y aurait peut-être des facteurs génétiques, héréditaires, qui expliqueraient que certaines personnes sont plus sensibles au niveau de l'activation de leur système nerveux. C'est comme si le système nerveux perçoit des dangers dans les situations sociales là, que d'autres percevraient pas. Mais on se rend compte aussi que l'apprentissage, quand les enfants de parents anxieux sont beaucoup plus susceptibles eux-mêmes d'avoir le trouble parce qu'ils vont avoir observé hein, leurs parents tout au long de leur vie qui évitaient certaines situations ou qui vivaient les choses avec une grande détresse. Donc, l'enfant intègre que ça peut être dangereux ou ça peut être très difficile, les situations sociales. Donc, c'est aussi une des façons que les gens développent la phobie sociale.
On parle beaucoup d'anxiété. On connaît de plus en plus le trouble, les crises d'anxiété, troubles d'anxiété. Est-ce que c'est lié, ces deux troubles-là, phobie sociale et troubles d'anxiété?
La phobie sociale, en fait, c'est un trouble trouble anxieux. Donc, ça fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Puis, c'est une branche le plus spécifique. Donc, c'est ça. Des fois, on l'appelle la phobie sociale. Des fois, on l'appelle le trouble d'anxiété sociale.
Ah, OK, d'accord. Et est-ce que ça peut générer d'autres troubles de santé mentale? On parlait de dépression tout à l'heure.
Oui, évidemment, quelqu'un qui se retrouve dans des situations sociales très embarrassantes pour lui, en tout cas perçues comme embarrassantes, qui évite de plus en plus de situations, mais c'est sûr que ça peut engendrer un isolement. Et cet isolement-là, on voit que ça peut avoir un impact sur l'humeur. Donc, plus il y a plus de chances d'avoir des symptômes dépressifs ou même d'autres troubles anxieux, comme le trouble panique, par exemple.
Bon, on parle d'isolement, mais j'imagine aussi qu'il y a quelque chose de lié à l'entrave de l'épanouissement de soi-même, réalisation, estime de soi aussi.
Oui, absolument. C'est évidemment la personne qui se sent constamment incompétente dans toutes les situations sociales. Bien, c'est sûr que c'est difficile de bâtir une confiance en soi. Puis, cette difficulté-là fait en sorte que la personne évite de plus en plus les situations, mais plus elle évite, moins elle se sent confiante. Alors, il y a comme un cercle vicieux qui s'installe et qui fait qu'un alimente l'autre.
Émilie, si le trouble, la phobie sociale s'installe davantage entre 10 et 20 ans, est-ce que l'on pourrait penser que c'est un trouble qui engendre plus de décrocheurs?
Je sais pas. Je vous dirais oui. Dans un premier temps, oui. J'ai pas les chiffres pour venir appuyer ça. Par contre, ce qu'on voit, nous, dans nos bureaux ici, c'est effectivement les gens qui ont une phobie sociale, c'est pas rare que c'est des décrocheurs ou qui ont un niveau de scolarité beaucoup plus... qui ont un niveau de scolarité inférieur à la moyenne des gens. Effectivement, ça, on l'observe.
Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de la difficulté de trouver un emploi ou de conserver un emploi, même d'entrer dans une relation amoureuse, là. Oui. Donc, ça a vraiment des répercussions sur la vie sociale.
Absolument. Puis sur la vie académique aussi, hein, parce que intégrer un nouveau programme d'études, bien, c'est sûr que c'est très, très stressant pour ces gens-là.
Comment on peut aider ces gens-là? Est-ce qu'il y a des traitements?
Oui, ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Il y a des traitements qui ont été démontrés efficaces. En fait, ce qu'on va conseiller, surtout, c'est une thérapie cognitive comportementale. Il y a aussi de la pharmacothérapie qui peut être offerte là, en combinaison, dans le fond, avec que les gens ont à la fois la pharmacothérapie et font une thérapie cognitive comportementale où on va travailler différents éléments avec les gens. Donc, d'abord, de mieux comprendre c'est quoi leurs difficultés, qu'ils comprennent bien c'est quoi les mécanismes anxieux qui sont à l'origine de leurs symptômes. Et il y a un entraînement aux habiletés sociales, hein, parce qu'évidemment, les gens qui ont évité beaucoup, beaucoup de situations sociales, des fois, ils n'ont pas développé toutes les compétences pour entrer en relation avec les gens.
Oui.
Puis la partie la plus importante, je vous dirais, du traitement, c'est vraiment de l'exposition. C'est donc tranquillement d'affronter des situations qui étaient évitées. Pour s'y sentir de plus en plus à l'aise, on y va de façon très graduelle en respectant le rythme et les compétences de chacun.
Oui, c'est ça. On s'implique pas là tout de suite d'entrée de jeu dans une troupe de théâtre amateur, par exemple.
Non. On veut vraiment que les gens vivent des réussites. Donc, on prend les gens d'où ils arrivent, là, puis on bâtit à partir de là. Donc, il y a des gens, des fois, que ça va être un exercice pour être de laisser un message sur un répondeur, tout simplement.
Ben oui.
J'ai déjà vu une personne aussi qui a de la difficulté à marcher sur le trottoir parce qu'elle se sentait très observée puis avait peur d'être jugée. Donc, un exercice pourrait être de simplement prendre une marche sur le trottoir. Donc, c'est vraiment, on prend les gens où ils sont, avec leur peur à eux, leur pensée à eux. Et on part de là pour tranquillement aller vers une vie qui va être plus satisfaisante pour eux.
Ça peut aller, j'imagine, Émilie, jusqu'à regarder les gens dans les yeux, être près d'eux aussi physiquement.
Absolument, la proximité physique, vous avez raison, c'est un enjeu important aussi, oui.
On fait comment? J'ai l'impression que l'on parle davantage des adultes. On fait comment avec des enfants? Là, on parlait de 10-20 ans, enfants, adolescents.
Moi, ma spécialité, c'est pas le traitement auprès des enfants, mais je vous dirais que le traitement est essentiellement le même.
OK.
Donc, l'enfant aussi va être amené à s'exposer, mais souvent, ça va être en collaboration avec l'école, en collaboration avec les parents, pour que l'enfant vraiment se sente soutenu là-dedans et que les expositions soient bien ciblées et qu'il vive vraiment beaucoup de réussite, là.
Bon, vous venez de le dire, Émilie Jeté, vous n'êtes pas spécialisée avec les enfants, mais il y a vraiment une question qui me brûle les lèvres. On va entendre souvent un parent dire « Bon, fais pas ton gêné, ah, il est gêné. » Bon, lorsqu'on voit des enfants se cacher derrière leurs parents ou être timides, est-ce que c'est une façon de valoriser ce comportement-là? Est-ce qu'on devrait l'éviter?
Effectivement, en fait, pour n'importe qui a des difficultés, que ce soit un enfant ou un adulte, on va toujours éviter de blâmer les gens. Hein? Les gens se sentent déjà suffisamment incompétents ou pas bien au moment où ils émettent des comportements de gêne ou de timidité. Si on insiste sur ce comportement-là, qu'on blâme, bien, ça rajoute une couche à la détresse.
Ouais. Et ça, c'est la même chose avec les adultes, là. Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour quelqu'un qui vit avec un conjoint, une conjointe, un collègue, un ami qui a des phobies sociales?
Bien, peut-être la première chose, ce serait vraiment de s'informer. Il y a de très bons sites Internet, très bons livres aussi qui existent sur la phobie sociale. Donc, d'abord, de s'informer sur qu'est-ce que c'est ça, pour bien comprendre c'est quoi que son proche est en train de vivre, là. Et encourager les gens à consulter, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. C'est pas une caractéristique de la personne. Elle n'est pas obligée de rester avec cette détresse-là pour toujours. Il y a des choses à faire. Donc, c'est d'encourager son proche à consulter, puis d'avoir de l'écoute, du soutien auprès de cette personne-là. Mais effectivement, on évite de blâmer, de dire à l'autre ce qu'il devrait faire, de lui donner des solutions toutes faites ou de l'invalider là dans son point de vue, ses émotions. Là, on y va vraiment plus avec des comportements de soutien.
On le disait tantôt, le traitement est possible, que ce soit consultation, par des médicaments, par l'exposition. Il y a différentes façons de contrer les phobies sociales. C'est quoi le taux de réussite?
En fait, pour l'ensemble des troubles anxieux, les études démontrent là, un taux de réponse entre 70 et 80 %.
Oh, quand même, c'est
Oui,
très bien. Il y a
c'est
beaucoup
très élevé.
d'espoir.
Oui, il y a
Oui.
beaucoup d'espoir, effectivement.
Oui. Puis après, on peut même voir ces gens-là, Émilie, obtenir un boulot, avoir un cercle d'amis un petit peu plus élargi, avoir une relation amoureuse. On peut aller jusqu'à
On peut
espérer
aller
ça.
jusque-là, oui.
Ah, oh, bon, ben plein, plein, plein d'espoir,
Oui.
Émilie Jeté, pour les phobies sociales. On voit bien que lorsque c'est bien pris à temps, bien diagnostiqué, puis qu'il y a un bon suivi, ben c'est possible de contrer la phobie sociale.
Absolument.
Bon, alors, Émilie Jeté, vous étiez intimidée au départ, mais vous avez bien, très, très bien fait ça.
Bien, merci beaucoup.
Je rappelle, vous êtes psychologue au programme des troubles anxieux et de l'humeur de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Merci beaucoup, bon après-midi.
Merci à vous aussi.
Bye-bye.
Bye bye.